Les mots s'écrivent, les mots se parlent, les mots s'écoutent. Les mots prennent tout leur sens et deviennent une mosaïque de rubriques. Les Mosaïques des Vies, votre émission en direct, les 2e et 4e jeudi du mois à 11h et rediffusion le dimanche suivant à 16h.
Les mots, les mosaïques.
Les mots,
les mosaïques,
les mosaïques des vies.
Bonjour à tous. Ce matin, j'accueille Maître Ducoing-Vilzec, notaire diplômé, notaire à Saint-Leu-la-Forêt, qui revient pour la seconde fois dans l'émission en direct pour nous parler de l'héritage et de la protection des conjoints survivants. Bonjour Maître.
Bonjour Evie.
Merci beaucoup d'être venu donc une seconde fois et puis d'éclairer nos auditeurs sur un sujet aussi complexe que l'héritage. Alors bien sûr, j'ai une multitude de questions. Tout d'abord, quel est le rôle du notaire ?
Alors, le rôle du notaire est essentiel dans le cadre du règlement des successions, puisque tout d'abord, il existe en fait deux aspects au règlement de celle-ci. Il existe un aspect civil et un aspect fiscal. Donc, concernant l'aspect civil, le notaire va établir la dévolution successorale, c'est-à-dire indiquer donc, dans l'acte de notoriété, c'est-à-dire l'acte qui débute la succession, quels sont les ayants droit du défunt. Cet acte va permettre un certain nombre de choses, prendre officiellement la qualité d'ayant droit, évidemment, et il va permettre de débloquer, par exemple, les comptes bancaires qui sont bloqués à la suite,
sous
évidemment,
séquestre,
du décès.
C'est ça ?
Non, mais non. Qui sont bloqués. La banque a besoin de ce document pour débloquer les comptes et permettre, en fait, la suite de la succession. Il va interroger donc tous les organismes divers, c'est-à-dire les établissements bancaires, tout ce qui peut constituer le passif successoral également, donc, plus généralement se mettre en relation avec les syndics de copropriété, le cas échéant, se renseigner auprès du conseil général pour savoir s'il existe des dettes et réunir tous les documents d'actifs et de passifs qui peuvent constituer donc la succession dans son entier. Au niveau fiscal, le notaire donc se charge d'établir la déclaration fiscale de succession qui doit être déposée donc à la recette des impôts dans un délai de 6 mois à compter de la date du décès, qui reprend donc l'intégralité des actifs et des passifs, notamment en indiquant également si des droits sont dus. Et évidemment, le cas échéant, les régler dans le délai imparti. Donc ça, c'est pour la partie fiscale. Et il se charge également donc, de muter les biens lorsqu'il existe des biens immobiliers auprès du fichier immobilier en établissant donc un acte permettant aux héritiers d'être titrés sur le bien. Voilà.
Dans le couple, lorsqu'il y a des enfants communs à l'union, quels sont les droits du conjoint survivant ?
Alors, la loi du 3 décembre 2001 a considérablement accru les droits du conjoint, puisqu'auparavant, il en avait peu. Aujourd'hui, lorsque le conjoint donc, est en concours avec les enfants communs, il bénéficie à son choix ou de la totalité en usufruit, donc la totalité en usufruit, évidemment, sur les biens qui composent la succession du défunt, ou du quart en pleine propriété, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque auparavant il ne pouvait bénéficier que d'un quart en usufruit. Donc aujourd'hui, il se comporte presque comme un héritier au regard de la loi.
D'accord. Et dans le cas d'enfants issus d'un premier lit, est-ce que les droits pour le conjoint survivant sont les mêmes ?
Alors, là, non, c'est très différent. Lorsque le législateur, effectivement, avait prévu, en 2001, d'accroître les droits du conjoint survivant, mais pour autant, il ne souhaitait pas que les enfants du premier lit soient privés de tout droit. La volonté étant quand même qu'un partage soit opéré avec ceux-ci. De sorte que, si des enfants du premier lit existent, il ne peut pas opter, il ne peut pas bénéficier de l'usufruit. Il ne pourra recueillir sur la part du défunt qu'un quart en pleine propriété. Donc, ce qui nécessite bien évidemment de faire un partage. Les droits légaux du conjoint. Bien évidemment, il y a possibilité pour le conjoint, pour les époux, hein, s'ils veulent davantage de protection, de mettre en place une donation entre époux. Donation au dernier des vivants, hein, elle est plus connue sous ce nom. Cela permet en fait d'accroître les droits du conjoint, qui lui permet de recueillir à son choix donc la totalité en usufruit ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, mais en tout état de cause donc d'accroître évidemment considérablement les droits du conjoint. Donc c'est à prévoir éventuellement lorsqu'il y a des enfants d'un premier lit, c'est une meilleure protection pour le conjoint survivant. Ça ne veut pas dire évidemment que ça prive les enfants. Le but n'est pas de priver les enfants, puisqu'il peut être évidemment envisagé de faire un partage immédiatement pour que les enfants du premier lit puissent entrer en possession de leur part. Mais pour autant, ça confère quand même une protection au conjoint survivant. Le but de la loi de 2001 était la protection du conjoint.
Et justement, quels sont les droits du conjoint survivant en matière de logement ?
Alors là encore, donc cette loi de 2001 donc, a préservé le conjoint quant à son logement, puisque auparavant, hein, donc avant 2001, lorsque les époux n'avaient pas été prévoyants, il arrivait parfois que les enfants demandent la part de leurs parents prédécédés et que le conjoint soit contraint de vendre le logement pour donner la part à ses enfants. Donc ça a évidemment amené à des situations parfois dramatiques. Aujourd'hui, le conjoint dispose d'un droit de jouissance gratuite pendant une année sur le logement qui constitue l'habitation principale et également sur le mobilier qui garnit le logement. Donc ça lui laisse en fait une année pour se retourner, le cas échéant, pour prendre des dispositions. Alors évidemment, lorsque les enfants sont communs, bon, il n'y a pas de difficulté. Et lorsque l'habitation principale est commune également, il n'y a pas de difficulté. La difficulté était lorsque le bien appartenait donc au défunt, et qu'il existait des enfants d'un premier lit, parce que là, il n'y avait pas de protection, en fait, pour le conjoint. Désormais, même dans cette situation, le conjoint dispose d'une année pour se retourner et ne peut pas être mis à la porte.
Et qu'on soit bien clair, même s'il n'y a pas eu de contrat au dernier des vivants.
Exactement.
D'accord.
Voilà, ça c'est un effet direct du mariage, donc effectivement cela lui laisse une année
de jouissance
gratuite. Et lorsque le conjoint survivant était soumis à bail à loyer, c'est-à-dire lorsqu'il était locataire, la succession doit effectivement une année de loyer au conjoint survivant pour lui permettre d'être maintenu dans les lieux.
D'accord. Et bien sûr aussi de jouir du mobilier.
Exactement. Et du mobilier. D'accord. Également. Et à l'issue de cette année, le conjoint survivant dispose d'un droit viager. Donc c'est-à-dire que soit effectivement, si le bien est un bien propre, hein, comme je vous l'indiquais, au conjoint avec des enfants issus d'une première union, il peut tout à fait décider d'opter pour ce droit viager. Donc il restera sa vie durant, ou le temps qu'il le souhaite, dans le logement, sans que effectivement les enfants puissent exiger quoi que ce soit. Par contre, il s'agit d'un droit personnel, donc nominatif bien sûr, non cessible, de sorte que s'il quitte le logement, ce droit viager évidemment est perdu.
D'accord. Et comment faire un testament ? Et est-ce qu'il y a plusieurs types de testaments d'ailleurs ?
Alors oui, donc il existe en fait plusieurs types de testaments. Le plus usité est le testament holographe, hein, puisque celui-ci peut être fait de façon manuscrite, chez soi, ça laisse évidemment le temps d'y réfléchir. Ce testament peut être conservé au domicile. Il est préférable évidemment de le déposer chez un notaire, hein, tout simplement parce qu'il pourrait tomber dans des mains indélicates et pourrait être détruit. Donc l'intérêt de le déposer chez un notaire, c'est qu'il est conservé au coffre et enregistré enregistrer auprès du fichier central des dispositions de dernière volonté, de sorte que, quel que soit le notaire qui sera en charge de la succession, lorsque le fichier sera interrogé, une inscription sera révélée et il sera évidemment possible de prendre attache avec le notaire qui détient les dispositions testamentaires. Le second testament est le testament authentique qui, lui, doit être fait donc, chez le notaire en présence de deux témoins. Il est aujourd'hui préférable de faire un testament authentique parce qu'il y a un formalisme obligatoire maintenant lorsqu'il y a des légataires universels en l'absence de conjoint lorsque le testament est holographe. Donc le testament authentique, effectivement, dispense un certain nombre de choses.
Pourrait être, incontestable, incontesté.
Les deux, de toute façon. Alors, le testament holographe, effectivement, doit être déposé au rang des minutes. Il y a tout un formalisme, en fait, post-testament, évidemment, après l'ouverture de la succession à mettre en œuvre, le testament authentique dispense en fait de faire un certain nombre de choses.
D'accord.
Et puis il y a un troisième testament qui est donc le testament mystique, mais qui est très très peu usité. Cette forme n'est pratiquement plus utilisée.
Et c'est quoi, juste rapidement?
Le testament mystique, en fait, il est écrit à la main ou dactylographié, oui, hein, par le testateur. Et il est présenté clos et scellé à un notaire en présence de deux témoins.
Très bien.
Voilà, mais c'est très très peu usé.
À l'ancienne.
Exactement, tout à fait.
Très bien. Comment peut-on prévoir l'organisation de ces obsèques dans un testament?
Alors, ça, c'est une question très importante parce qu'il arrive évidemment très souvent que les gens, dans le cadre évidemment d'un testament, de la rédaction d'un testament holographe, donc à leur domicile, bien souvent lorsque ces personnes en fait n'ont pas d'héritier ou sont seules, souhaitent qu'ils soient pour leurs obsèques disposés d'un certain nombre de choses. Ils déposent en général le testament chez un notaire. Le problème, c'est que ces dispositions testamentaires sont ouvertes évidemment après évidemment les obsèques, et évidemment c'est trop tard. On n'a pas les informations, la famille ou les amis n'ont pas les informations en amont, donc ce n'est pas une bonne idée en fait de prévoir l'organisation de ces obsèques dans un testament. Il faut soit effectivement faire part à des amis, de la famille, des voisins, ou le laisser chez soi de façon bien visible.
Puis-je hériter de mon conjoint avec lequel je ne vis plus, mais dont je ne suis pas divorcée?
Alors, aujourd'hui, dès lors que l'on n'est pas divorcé, le conjoint est héritier à part entière. De sorte que si on veut priver son conjoint de tout droit dans sa succession, il est impératif et indispensable de prendre des dispositions testamentaires en ce sens.
Oui.
Hein, donc aujourd'hui, il faut être divorcé, c'est-à-dire non pas en instance de divorce, mais que le jugement soit passé en force de chose jugée.
Voilà. Tant que l'audience n'a pas eu lieu...
Tant que le juge n'a pas prononcé le divorce, les époux sont réputés mariés, être mariés, et héritiers l'un de l'autre.
Tout à fait, donc faut le savoir. Une dernière question avant notre pause musicale. En cas de dissimulation d'un héritier ou d'un bien, quelles en seraient les conséquences?
Eh bien, les conséquences sont dramatiques, puisque cela constitue un recel successoral. Alors évidemment, cette dissimulation est sanctionnée. Donc le receleur est réputé avoir accepté purement et simplement la succession. Il ne peut plus y renoncer. Et il perd ses droits sur les biens recelés, qui sont attribués aux autres héritiers. Par ailleurs, en cas de dissimulation d'un héritier, la part revenant à cet héritier dissimulé s'impute sur celle de l'auteur du recel, qui pourra aussi, évidemment, être condamné à des dommages et intérêts.
Ce qui me semble normal, puisque ça lèse un héritier.
Exactement, tout à fait.
Eh bien, nous allons donc passer à la pause musicale. Une très jolie chanson de Benjamin Biolay, chantée par Ilse Hult, c'est « Ton héritage ».
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles d'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent. pousse un dernier cri. Crie, mon enfant, si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs. Si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan. Si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse en plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans. Et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt ça.
Eh bien, nous sommes donc en direct sur Alternative FM, où je reçois donc notre charmante notaire qui vient dispenser ses précieux conseils à nos auditeurs sur l'héritage et la protection des conjoints survivants. Et maître, en l'absence d'enfants dans le couple, qui sont les héritiers ?
Alors, désormais, le conjoint se comporte comme un héritier. Hein. De sorte que s'il n'y a pas d'enfants, dans le cadre légal, si des dispositions n'ont pas été prises, les pères et mères sont héritiers, à concurrence donc d'un quart chacun, et le conjoint survivant recueille la moitié. Évidemment, le conjoint prime désormais les collatéraux privilégiés, c'est-à-dire les frères et sœurs, ce qui n'était pas le cas avant la loi de 2001. Bien évidemment, il y a toujours aujourd'hui possibilité de prendre des dispositions testamentaires.
Et en l'absence de conjoints survivants, qui sont les héritiers ?
Alors,
dans le couple.
Alors, lorsqu'il n'y a pas donc de conjoint survivant, c'est l'article 734 hein, du Code civil qui nous donne le classement. Ce sont évidemment déjà les enfants et leurs descendants. C'est-à-dire que si l'un des enfants est décédé, c'est les petits-enfants dont viendront par représentation de leur auteur prédécédé. Ensuite, il y a les pères et mères qui sont héritiers.
D'accord. Donc d'abord, les descendants, les petits-enfants.
Alors, les enfants, tout d'abord.
Ah oui, les enfants.
Les enfants. Si l'un des enfants est décédé, les petits-enfants qui viennent par représentation donc de leur auteur prédécédé. S'il n'y a pas d'enfants... Donc les pères et mères, d'accord, en concours avec les frères et sœurs,
D'accord.
Et s'il n'y a ni père et mère, ni frère et sœur, ce sont donc les ascendants autres que les pères et mères, donc les grands-parents.
Les grands-parents.
Et à défaut de grands-parents, donc les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
C'est-à-dire, tante.
Voilà, exactement, cousins, cousines, etc. Voilà.
Très bien. Est-ce que c'est obligatoire de communiquer les contrats d'assurance vie au notaire ?
Ah. Et oui. Alors, grand débat. Effectivement, très souvent, les héritiers, lorsqu'ils viennent ouvrir les successions, nous disent les contrats d'assurance vie ne rentrent pas dans le cadre de la succession et on nous a fortement conseillé de ne pas communiquer ces informations au notaire. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que certains contrats d'assurance vie doivent être déclarés. Puisque lorsqu'ils sont souscrits, après l'âge de 70 ans, ils sont soumis au droit de mutation à titre gratuit. C'est-à-dire que la fiscalité n'est pas du tout la même selon que le contrat a été souscrit avant l'âge de 70 ans ou après l'âge de 70 ans. Si effectivement le contrat est souscrit avant 70 ans, ça passe hors actif.
Hors succession.
Hors succession, puisqu'il y a un abattement important de 152 500 euros. Et le cas échéant, si les montants sont au-delà de cette somme, il y a des droits forfaitaires au taux de 20%. Par contre, pour tous les contrats souscrits après l'âge de 70 ans, là, il y a un abattement en faveur des héritiers, enfin des bénéficiaires du contrat, et quel que soit le nombre de contrats souscrits, qui s'applique sur la totalité de ceux-ci, qui est de 30 500 euros, et au-delà de cette somme, des droits de mutation, donc droits de succession, hein, ce que l'on appelle, ce que les... évidemment les clients appellent plus couramment, sont dus au même titre que les actifs dépendant de la succession. Donc il faut réincorporer ces sommes dans la succession. Et évidemment, lorsque nous ne sommes pas au courant de ces contrats d'assurance-vie, le risque est qu'il y ait un redressement fiscal derrière, puisque nous n'avons pas eu ces éléments et nous n'avons pas pu les intégrer dans la déclaration de succession. Donc
d'accord.
Effectivement, si les contrats sont souscrits après 70 ans,
voilà.
Il est impératif que nous ayons ces informations.
Très bien. Donc avant 70 ans,
c'est pas
la
utile.
Personne
c'est pas utile.
Ne vous en parle pas. Voilà.
Exactement.
Mais après 70
ans... Elle peut nous en parler et on lui dira exactement ce qu'il en est.
Vous la rassurez.
Et comment le faire. Oui. Comment faire pour déclarer son contrat, mais effectivement, elle n'aura pas besoin de passer par nous pour le faire. Et lorsque c'est après 70 ans, c'est préférable.
Mmh, mmh. Très bien. Et ma dernière question concerne les personnes étrangères, c'est-à-dire, pour les étrangers, quelle sera la loi applicable à leur succession ?
Alors là encore, il y a eu encore une grande réforme au niveau de l'uniformisation des règlements de succession internationale, puisque auparavant, c'était un petit peu compliqué. Donc là, l'Union européenne, en fait, a mis en place donc, un règlement qui a modifié en fait, toutes les règles pour simplifier le règlement des successions. Alors, désormais, la loi applicable à la succession est celle de la dernière résidence habituelle de la personne décédée, et ce, pour l'ensemble de ses biens. C'est-à-dire que si des étrangers vivent en France et qu'ils n'ont pas fait acte de professio juris, en fait, c'est déterminer quelle sera la loi applicable, en fait, à sa succession, et si, d'emblée, ils seront soumis à la loi française. Donc, s'ils veulent que leur succession soit soumise à leur loi nationale, il faut absolument faire un acte en ce sens pour indiquer qu'ils souhaitent être soumis à la loi de leur nationalité.
Et ceci se fait chez un notaire en France.
Exactement, tout à fait, exactement.
Très bien.
Voilà. Et donc, c'est très important parce que, on l'entend évidemment là avec la succession de Johnny Hallyday, c'est sur cela que tout repose en fait. Hein. C'est déterminer en fait quelle va être la loi applicable en fait à la
d'accord.
succession. Voilà pourquoi lorsque aujourd'hui on vit en France et qu'on veut conserver sa nationalité, si l'on veut être soumis à la loi de son pays, il faut faire un acte pour que ce soit expressément stipulé.
Très bien. Et c'est donc une loi européenne.
Tout à fait. C'est une loi européenne.
D'accord.
donc qui est entré en vigueur, enfin qui est du 4 juillet 2012. Oui.
Et qui est, je pose une question, qui concerne tous les pays membres de la communauté.
Membres de l'UE, mais en fait le règlement s'applique aussi aux autres pays, alors avec effectivement d'autres règles, parce qu'il y a des règles de renvoi, etc. Mais aujourd'hui, la règle, c'est la loi de la dernière résidence pour tout le monde.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, maître. Je vous laisse le mot de la fin.
Bien, écoutez, je suis ravie d'avoir pu intervenir parce que, évidemment, tout le monde est concerné tôt ou tard par le règlement d'une succession.
Oui.
Et nous constatons quand même dans nos études assez fréquemment que les gens sont finalement peu informés, en fait, sur les points que j'ai souhaité évoquer aujourd'hui et qu'il est important... de consulter en amont son notaire pour prendre les dispositions qui s'imposent lorsqu'il y a des situations de famille recomposées ou des dispositions testamentaires à prendre. Il est toujours préférable de voir tout cela en amont parce que malheureusement, une fois que la personne est décédée,
c'est trop tard. Tout à fait.
Voilà.
Bien, merci beaucoup.
Eh bien, je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
C'était les mosaïques des vies. Mots croisés, mots échangés. Mots composés rien que pour vous. Evie sur Alternative FM 106.5.
Les mots, les mosaïques.
Les mots, les mosaïques. Les mosaïques d'Evie.